Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
Dans Open Blues, chaque année, je vous ai présenté un album des Rolling Stones et même si je regrette de ne pas avoir parlé d'Aftermath qui est sorti en 66 ou The Satanic Majesties paru en 1967, je pense avoir montré l'essentiel de l'époque où les Stones sortaient des albums références. Aujourd'hui, je vais parler de deux albums qui me paraissent annoncer un virage dans leur production musicale. Il s'agit de God's Heads Up et de It's Only Rock'n'Roll, parus respectivement en 1973 et 1974. Avec eux, les Stones s'éloignent du blues progressivement et tendent vers un glam rock, de qualité certes, mais loin de l'esprit des débuts. Avec It's Only Rock'n'Roll, Mick Taylor s'étiole un peu plus avant de partir et voir arriver Ron Wood, qui est encore aujourd'hui avec Keith Richards et Mick Jagger, dernier survivant du groupe Origin. Formé en 1962 avec Brian Jones, véritable tête chercheuse pour un blues renouvelé, innovant et subtil, multi-instrumentiste, étonnant, mais aussi avec une rivalité latente entre Brian et le couple Keith et Mick. On sait qui a gagné. À ces trois, il faut ajouter le bassiste Bill Wyman, qui partira en 1993, et le batteur Charlie Watts, décédé en 2021. D'abord enracinés dans le blues et les débuts du rock'n'roll, les Rolling Stones se sont imposés en rivaux des Beatles et furent la tête de pont de l'invasion britannique des charts US et européens. Aussi, après beaucoup de péripéties musicales, judiciaires et sociales, on arrive en 1973 où Mick Jagger impose sa vision et son goût pour suivre les tendances du moment. Les albums du jour restent de bons albums, mais les synthétiseurs et les sons durs sont omniprésents. Et ça change quand même beaucoup de choses. On est bien à la fin d'une époque. God Heads Up est le 11e album studio britannique et le 13e album américain des Rolling Stones. Il est sorti fin août 1973 chez Rolling Stone Records. Comme son prédécesseur, Exile on Main Street, le groupe en a composé et enregistré une grande partie en dehors du Royaume-Uni, en raison de leur statut d'exilés fiscaux. God Heads Up a été enregistré en Jamaïque, aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'album contient 10 titres, dont sera tiré le premier single, Angie, qui fut numéro 1 un peu partout dans le monde. L'album a été le dernier à être produit par Jimmy Miller, qui était un architecte clé du son des Rolling Stones pendant leur période la plus acclamée, commencée avec Beggar's Banquet en 1968. Le bassiste, Bill Wyman, n'apparaît que sur 3 des 10 pistes de l'album, mais le reste des Rolling Stones, le chanteur principal Mick Jagger, le guitariste principal Keith Richards et le guitariste Mick Taylor, ainsi que le batteur Charlie Watts, jouent eux sur toutes les pistes, à l'exception de Winter dans lequel Keith Richards ne joue pas. En plus du groupe principal, on trouve aussi des accompagnateurs fidèles, dont le saxophoniste Bobby Keys, l'organiste Billy Preston et les pianistes Nicky Hopkins et Ian Stewart, qui reste pour moi le 6e Rolling Stones. C'est dans cet album que l'image des Stones a commencé à éclipser leur réalisation. Alors que Mick est devenu une célébrité de la jet set et que Keith s'enfonce lentement dans l'addiction aux drogues et à l'alcool. On a écrit que l'album préfigurait le son du groupe de la fin des années 70 et des années 80. Alors commençons par un premier titre, Doudou Heartbreaker, dont les paroles racontent deux histoires. L'une sur la police de New York qui a tiré par erreur sur un garçon de 10 ans, en plein cœur, le prenant pour un autre, et la seconde, celle d'une vieille fille qui meurt dans une ruelle d'une overdose de drogue. De fables librement inspirées de diverses anecdotes malheureusement réelles. C'était Do 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 Heartbreaker par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. L'album contient quelques bonnes chansons. Or, aucune ne sera jouée sur scène plus tard, à une exception près, Angie. Le premier morceau, Dancing with Mr. D, parle de la mort. Le second, 100 Years Ago, est l'occasion d'entendre un formidable jeu de guitare de la part de Mick Taylor, à mon avis un de ses derniers de ce niveau avec les Stones. Sur la première face, on trouve aussi la chanson Winter, qui selon Mick Taylor commençait avec juste Mick Jagger grattant sur une guitare en studio, et tout s'est enchaîné à partir de là. La chanson est la seule de l'album où Keith Richards ne joue pas. Il était absent, la guitare rythmique a été assurée par Mick Jagger. Et Mick Taylor enregistra des versions plus longues de Winter, comme d'ailleurs de Silver Train qu'on verra bientôt, en 1991 avec Carla Olson pour un album dont Too Hot for Snakes, et il va ainsi produire deux versions mémorables. Et puis il y a Angie, qui est crédité à la fois à Mick Jagger et à Keith Richards, pourtant on sait que c'est Keith qui a presque tout fait dessus. Angie a été enregistrée en fin de 1972, c'est une ballade à la guitare acoustique caractérisant à la fin d'une romance. Nicky Hopkins joue au piano et les cordes, comme pour Winter, ont été arrangées par Nicky Harrison. On remarque aussi l'effet voix fantôme qui est un chant en fond sonore collé sur le chant principal et qui donne une ambiance très spéciale. Il faut reconnaître que le chant de Mick est excellent, notamment en articulant bien les mots pour faire sonner le sentiment sur chaque ligne importante. Sorti en single en août 1973, Angie s'est hissé directement au sommet des charts sur les radios, même si la fin était coupée pour la ramener à une durée de 3 minutes. Parmi les sources d'inspiration, on a évoqué la rupture de Cade avec Anita Pallenberg, mais aussi une allusion à l'épouse de David Bowie, Angela Burnett, voire peut-être la future fille nouveau-née de Cade Richard, Dandelion Angela, ou encore de l'actrice Angie Dickinson. Après, on ne sait pas. Ce que je dirais, c'est que là, ça semble s'adresser à une femme plutôt qu'à un bébé. Et puis, il y a aussi l'hypothèse de la future rupture avec l'héroïne qu'elle s'est lancée dans la démarche de se soigner. À vous de choisir.
All the dreams we held so close seem to all go up
Angie par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Got That Soup a atteint la première place des charts un peu partout dans le monde. La musique des Stones est désormais devenue acceptable par tous. Cependant, les avis furent mitigés de la part des critiques et des fans habituels. Pour beaucoup, il annonce le début du déclin du groupe, après une série d'albums très réussis. Les Stones n'ont fait qu'une tournée de soutien pour cet album en Europe après sa sortie, et pour moi c'est un signe. En novembre 1972, le groupe est venu au studio Dynamic Sound à Kingston, en Jamaïque, et Keith Richards a déclaré en 2002 que la Jamaïque était un des derniers pays qui a accepté d'accueillir les Rolling Stones. Le problème était de pouvoir conserver l'unité du groupe en un même lieu. À propos du processus d'enregistrement, son responsable, Marshall Chess, fils et neveu de Leonard et Phil Chess, célèbre label de Chicago, fut impressionné par la rapidité avec laquelle le groupe a retrouvé l'unité et la justesse musicale malgré des semaines sans jouer ensemble. L'enregistrement s'est terminé en janvier 1973 à Los Angeles et en mai 1973 au Highline Studio de Londres. Got That Soup est également le premier album du groupe sans aucune reprise depuis Satanic Majesty's Request en 1967. La phase 2 commence doucement avec Silver Train, une chanson rock'n'roll à la saveur pré-rock avec beaucoup de guitare slide et d'harmonica. Les paroles traitent de la relation de chanteur avec une prostituée. Silver Train était un reste des enregistrements des années 70 et qui aurait dû figurer dans Sticky Fingers. Ce fut aussi la phase B du single Angie. Après en avoir entendu une démo, Johnny Winter en a fait une reprise pour son LP Still Alive and Well, paru en 73, des mois avant la sortie de Got That Soup. Silver Train, le train d'argent, par les Rolling Stones, sur OxyWeb Radio. Comme je l'ai dit, ce fut le dernier album des Rolling Stones produit par Jimmy Miller. Ce dernier était devenu trop dépendant aux drogues fortes, et même si c'était vrai que c'était au contact des Stones, et il faut dire qu'il en a perdu la tête. Bill Wyman ne joue de la basse que sur trois titres de l'album. Keith Richards et Mick Taylor ont géré son absence. Les sessions de God's Heads Up ont été riches en chutes. Deux d'entre elles, Tops et Waiting on a Friend, feront surface sur l'album Tattoo You qui lui va apparaître en 1981. Mick Taylor s'est mis en vedette à la guitare. Au moment de sa sortie, Mick Jagger a déclaré qu'il se sentait vraiment proche de cet album, pas toujours de God's Heads Up, dans lequel il s'était beaucoup impliqué. La couverture de l'album, conçue par Ray Lorenz, avec des photos de David Bailey, ami de Mick Jagger depuis 1964, montre le visage de Mick grandeur nature sur une couverture LP 33 tours, avec un voile rose au départ, puis jaune à la demande du chanteur. C'est censé ressembler à Catherine Hepburn dans Via Fluken Queen. La pochette montre le même montage avec les autres musiciens sur les différentes faces de la pochette. Pour finir, Star Star a suscité la controverse et fut interdit sur la BBC en raison des paroles obscènes. Son premier titre fut Starfucker, mais vous comprendrez qu'Atlantique s'y est opposé et a fait changer le nom. Star Star, qui évoque les artistes vedettes, évoque aussi les relations sexuelles avec une groupie. La chanson a acquis une notoriété non seulement pour des paroles explicites, mais aussi par le fait qu'elle fait allusion à des axes sexuels avec des fruits et qu'elle évoque des célébrités telles que John Wayne et Steve McQueen. La version qu'on entend aujourd'hui ne contient plus les paroles originelles, elles ont été adoucies. Et en fait, Mick Jagger fait surtout allusion à sa liaison avec Carly Simon, qui sortira plus tard la chanson You're So Vain en réponse justement à Star Star. Musicalement, Star Star est une chanson aux influences Chuck Berry. Le riff d'ouverture, les sons dans les couplets et le solo sont joués par Keith Richards et la guitare rythmique par Mick Taylor. La ligne de basse de Bill Wyman entre en jeu seulement au deuxième couplet. Baby, baby, I've been so sad since you've been gone. Way back to New York City. All night. c'était Star Star par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Le deuxième album du jour, It's Only Rock and Roll, est le 12e album studio Royaume-Uni et le 14e pour le marché américain. Il est sorti en octobre 1974 par Rolling Stone Records, distribué toujours par Atlantic Records. C'était le dernier album des Rolling Stones avec Mick Taylor. It's Only Rock and Roll combine le son orienté blues et rock and roll avec des éléments de funk et de reggae qui prennent le dessus. Ce n'est que du rock and roll a atteint la première place aux États-Unis et la deuxième au Royaume-Uni. Bien qu'il n'ait pas eu autant de succès que leurs albums précédents, It's Only Rock'n'Roll fut un disque de transition important pour les Rolling Stones. Suite au départ du producteur Jimmy Miller, c'est Ked et Mick qui se sont assurés la production sous le pseudonyme de The Clemmer Twins. Mick Taylor, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts ont joué sur la plupart des morceaux, tandis que les collaborateurs habituels, Ian Stewart, Nicky Hopkins et Billy Preston, ont vu la première apparition du percussionniste Ray Cooper qui va travailler avec les Stones jusque dans les années 80. If You Can Rock Me ouvre l'album. Les paroles jouent sur la double signification du mot rock, se référant à la fois à la musique rock'n'roll et au sexe. La chanson commence avec Mick Jagger chantant sur le fait d'être sur scène en train de désirer les relations sexuelles avec les femmes du public. Il veut juste coucher avec elles, juste pour la nuit. Selon le critique de Rolling Stone, John Lando, le refrain de « Si tu ne veux pas me bercer, quelqu'un le fera » est ce qui transforme la chanson en une chanson paillarde assez violente. La musique commence sur un rythme rapide avec la batterie de Charlie Watts et le riff de guitare de Mick Taylor. Assurant la guitare rythmique, Keith Richards joue également de la basse sur la chanson, avec un style assez musclé. En revanche, la mélodie, elle, reste assez faible. La chanson fut finalement assez peu jouée sur scène.
Thousand lips, I would.
C'était If You Can't Rock Me par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. L'enregistrement de It's Only Rock and Roll a débuté après leur tournée européenne à l'automne 1973. La production débuta en novembre à Munich au studio allemand Musicland. Selon Keith Richards, le groupe est entré en studio en étant très chaud pour enregistrer de nouvelles chansons. Ayant vu son travail dans le livre Rock Dreams, Mick Jagger a invité le peintre belge Guy Pellaert à suivre les sessions. Au final, il a peint le groupe comme des divinités du rock, descendant l'escalier d'un temple, entouré de jeunes femmes, les adorant, vêtues de vêtements à la grecque. C'est assez cohérent avec l'esprit montré dans les chansons de l'album. A noter que c'est Guy Pellaert qui a aussi réalisé en 1974 la pochette de Diamond Dogs de David Bowie. L'idée initiale pour les Rolling Stones était de produire un LP Mi Live, Mi Studio, avec une face présentant des performances de la tournée européenne, tandis que l'autre face serait composée de reprises de titres Rhythm and Blues que le groupe aimait. Cela visait Drift Away de Dobby Gray, Shame, Shame, Shame de Jimmy Reed et Ain't Too Bright to Beg des Temptations. Mais assez vite, ils ont commencé à travailler sur des riffs de Ked et de nouvelles idées de Mick Jagger. Aussi, le concept original a été abandonné au profit d'un album avec de nouvelles chansons. Seul Ain't Too Bright to Beg, je suis trop fier pour m'excuser, fut conservé comme prévu. C'est une chanson de 1966 et un single à succès des Temptations pour le label Gordy de Motown Records. Elle fut écrite par Norman Whitfield et Edward Holland Jr. Les paroles de la chanson présentent un narrateur plaidant pour une seconde chance avec son amour perdu. Les Temptations aimaient la mélodie inspirée du blues et des cuivres à la James Brown. A noter en 2007, une interprétation au festival de l'île de Wight avec la regrettée Amy Winehouse.
Yeah.
c'était Ain't Too Proud to Beg par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. La chanson It's Only Rock and Roll But I Like It a été enregistrée séparément du reste de l'album. La piste rythmique de base avait été jouée par des membres des Faces, dont Roddy Wood et le batteur Kenny Jones, lors d'une jam session avec Mick Jagger, David Bowie et le bassiste Willie Weeks. Mick Jagger a tellement aimé la chanson qu'il a apporté le morceau en l'état à Keith Richards, qu'il a ajouté quelques overtubes et l'a conservé comme tel pour la placer sur l'album. Enregistré à la fin de 1973 et achevé au printemps 1974, It's Only Rock'n'Roll But I Like It est attribué à Mick Jagger et Keith Richards. Pourtant, il faut reconnaître que le futur Rolling Stones, Ronnie Wood, a travaillé dessus. Le sens des paroles a été résumé par Mick Jagger dans les notes de pochette de la compilation de 1993, Jump Back. L'idée de la chanson a à voir avec notre personnage public, disait-il. À l'époque, une photo de moi me montrait avec un stylo enfoncé en moi comme s'il s'agissait d'une épée. C'était une sorte de chose légère et anti-journalistique. Mick Jagger a également déclaré que dès qu'il l'avait écrit, il savait que ce serait un single. Il a dit que c'était sa réponse à tous ceux qui prenaient au sérieux ce que lui et le groupe faisaient. Selon Keith Richards, il y avait une opposition du label à ce qu'il soit un single, mais ils ont persisté et gagné. Le titre va devenir un classique des Rolling Stones, également sur scène. Cashbox l'a qualifié de hard rock ayant la puissance traditionnelle des Stones, qui affiche un très bon rythme, avec le style vocal désormais inimitable de Mick Jagger. A noter que la vidéo de promotion de ce titre montre pour la dernière fois Mick Taylor avec les Rolling Stones, et dans l'esprit de beaucoup, Ronnie Wood a déjà remplacé Mick Taylor auprès de Keith Richards. We'll be right back. c'était It's Rock and Roll But I Like It, c'est que du rock and roll mais j'aime ça, par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. L'auteur James Hector a écrit que It's Only Rock and Roll était un tournant définitif pour le groupe. L'album a marqué l'entrée décisive des Rolling Stones dans le confort du statut de vieux notables du rock. À partir de là, leur impact sur le jeune public a disparu et désormais on aura peu de surprises musicales à l'avenir. En 1975, le groupe a commencé à auditionner des guitaristes dont Jeff Beck, Wayne Perkins, Harvey Mandel et Rory Gallagher comme remplaçant possible en prévision du prochain album studio Black and Blue prévu pour 1976. Mais finalement, c'est Ronnie Wood qui fut jugé le meilleur. Mais le style a changé. La chanson Luxury montrait l'intérêt grandissant du groupe pour la musique reggae, tandis que Till the Next Goodbye et If You Really Want to Be My Friend sont de simples ballades. Sept des chansons de l'album durent plus de 4 minutes, une caractéristique qui allait être décriée au moment où la scène punk rock émerge avec des durées de chansons beaucoup plus courtes. En réalité, la crise couvait entre Mick Taylor et Mick Jagger, ce dernier refusant systématiquement de mentionner le nom de Taylor sur les chansons, sur lesquelles pourtant il a eu un rôle essentiel, comme sur Till the Next Goodbye et Time Waits for No One, entre autres. Pourtant, amis assez proches, les deux mix sont disputés. Mick Jagger et Keith Richards ne travaillaient plus vraiment en équipe et donc Mick Taylor devait compenser ce manque de travail en commun préparatoire. On finit avec Dance Little Sister, dont les paroles demandent aux femmes en talons hauts et jupes serrées de danser pour Mick Jagger toute la nuit. Certaines des paroles évoquent Mick et Bianca Jagger en vacances à Trinidad. Au plan musical, Keith Richards joue de façon nerveuse, ce qui est assez rare, au plan rythmique surtout. Le jeu de guitare de Mick Taylor est vif et la batterie est presque féroce. Le titre rappelle le milieu des années 60, passant pour un retour au type de chanson de l'époque. We'll be right back. C'était Dance Little Sister, Danse Petite Sœur, par les Rolling Stones, sur OxyWeb Radio. Sans bénéficier de l'aura attachée aux albums parus entre 1968 et 1972, ces deux albums restent de bons albums. Le problème est ce souci de coller à une époque où le hard rock reste vivace, le glam rock émerge, le punk rock et le reggae s'installent, et surtout le synthétiseur prend de l'ampleur dans les chansons. Et le blues en tout ça, qui était une influence importante jusque-là, devient trop recomposé, tiraillé par des variantes rythmiques de plus en plus complexes. De plus, Kate et Mick dominent le groupe, utilisant les autres musiciens, y compris les habituels accompagnateurs, sans se montrer reconnaissant envers eux, comme si les royalties supplantent l'intérêt relationnel entre eux. Le train de vie est faramineux, l'addiction aux drogues dures colle encore aux musiciens, même si Kate semble le plus concerné. Cela finira par changer, assez vite, le côté rebelle s'estompe, mais le glamour est compliqué à adopter. Il manque l'inventivité sonore de Brian Jones, la complicité de Bill Wyman ou de Charlie Watts est ignorée. L'apport percutant de Mick Taylor, gaspillé puis maîtrisé. Il reste à réécouter ses albums qui restent assez solides et riches de bonnes idées. L'avenir apportera malheureusement désormais peu de surprises au fond. La semaine prochaine, je vous parlerai des hits des années 70 comme c'est l'usage pour les vacances de printemps. Mais d'ici là, bah, roulez blues!